Quid des drogues? En France, quasiment un adulte sur deux, 45%, a déjà consommé du cannabis. Chez les adolescents, 7% des collégiens et 33% des lycéens ont déjà essayé. C'est la substance illicite la plus consommée devant la cocaïne, 6% des adultes, la MDMA ou l'ecstasy, 5%, et les amphétamines, 2%. Toutes les drogues affectent la mémoire. Mais prenons l'exemple du cannabis. Le THC, sa substance psychotrope, se fixe sur des récepteurs membranaires des mitochondries, les centrales énergétiques, des neurones de l'hippocampe. Ne disposant plus de suffisamment d'énergie pour fonctionner, ces neurones encodent mal le contexte spatial et temporel. Les consommateurs réguliers ont ainsi plus de souvenirs autobiographiques flous, c'est-à-dire dissociés d'un lieu ou d'une date précise. S'ils stockent encore les souvenirs les plus importants, ceux-ci sont souvent pauvres en détails. Ce phénomène toucherait en particulier les personnes qui consomment pour pallier leur dépression, ces deux facteurs aggravant les troubles de la mémoire. Qu'en est-il du CBD ou cannabidiol, une autre substance non psychotrope? Les boutiques se répandent dans nos rues et sur le web comme une traînée de poudre. Elles vendent et vantent un produit miracle pour de nombreux maux qui favoriseraient même la concentration et la mémorisation. Qu'en est-il? De nombreuses études sont en cours pour déterminer si le CBD pourrait avoir un effet sur la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'autisme, les troubles du sommeil ou la douleur chronique. À ce jour, le seul effet thérapeutique reconnu et même commercialisé sous forme de médicament est un antiépileptique. En revanche, le CBD vendu en boutique n'a aucune propriété médicale. Ce n'est pas un stupéfiant comme le THC, car il intervient sur d'autres récepteurs membranaires du cerveau. Mais comme tout principe actif, son usage n'est pas neutre. Il est donc à manipuler avec précaution. À faible dose, il détend, réduit le stress, aide à dormir et soulage certaines douleurs. En revanche, comme le THC, il est lipophile et s'accumule dans le gras de notre cerveau. Il peut alors interagir ou provoquer une surdose toxique avec d'autres médicaments comme les antiépileptiques, les anticoagulants, les immunosuppresseurs ou la méthadone. Il présente aussi des effets secondaires comme la somnolence et la baisse de vigilance. Pas idéal pour rester « aware », comme dirait Jean-Claude Van Damme, mon maître à penser, concentré ou attentif, des éléments pour le moins indispensables à une bonne mémorisation. Le problème principal, c'est qu'aucune norme de qualité ne s'applique au CBD. Difficile donc de distinguer les bons produits des mauvais, des additifs étant fréquemment ajoutés. Attention aussi à la fumée produite par la combustion des fleurs ou feuilles de CBD. Comme celle du tabac, elle contient des substances nocives pour le cerveau et la mémoire. À éviter donc, surtout si on est en bonne santé. Vapoter, c'est moins grave que fumer ? La fumée du tabac produit du monoxyde de carbone qui altère le système vasculaire cérébral et augmente les risques de maladie d'Alzheimer. Les cigarettes contiennent aussi de nombreuses substances oxydantes qui abîment la barrière hémato-encéphalique, la rendant moins protectrice. À la longue, on pourrait dire que le cerveau finit par rouiller. La nicotine, de son côté, présente aussi bien dans le tabac que dans les e-liquides, agit sur les synapses en prenant la place de l'acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans la concentration et l'éveil. Les neurones y deviennent alors insensibles. Ces trois phénomènes perturbent la mémoire et l'apprentissage. Le débat sur l'innocuité supposée ou réelle des cigarettes électroniques bat son plein. Fin 2020, l'université de Rochester aux États-Unis, par exemple, a mené plusieurs études sur les effets du tabagisme et du vapotage sur les problèmes d'attention et de mémorisation. Tous les vapoteurs et tous les fumeurs ont évoqué des problèmes de brouillard mental. Si on compare les résultats des adultes vapoteurs par rapport aux non-vapoteurs et aux non-fumeurs, ils ont plus de pertes de souvenirs, de difficultés de concentration ou de prise de décision. Plus inquiétant, ceux qui ont commencé à vapoter avant l'âge de 14 ans évoquent des difficultés accrues par rapport à ceux qui ont commencé plus tard. Désolé de jouer encore une fois les oiseaux de mauvais augure, mais gare au vapotage. Inhaler des substances chimiques n'est jamais anodin pour la santé Et comme pour le CBD, attention à la composition et à la qualité des e-liquides qui peuvent comporter des additifs. Si le vapotage est recommandé pour arrêter le tabac, il est absolument déconseillé de s'y mettre quand on n'est pas déjà fumeur et encore plus à l'adolescence. L'hippocampe et le cortex préfrontal, indispensables à une bonne mémoire plus tard, ne sont pas encore matures et très vulnérables à l'environnement. Vapotage, tabac, drogue, alcool. Il n'y a pas que les toxiques que nous avalons ou inhalons qui créent des pertes de mémoire. Il y a aussi les toxines que notre corps produit sous l'influence du stress notamment. Le stress chronique est l'ennemi numéro un de notre santé et, évidemment, ni notre cerveau, ni notre mémoire n'y échappent. Le stress, un poison pour la mémoire.
Stressé parce que vous êtes en retard à un rendez-vous important ou face à une demande urgente, vous ne savez plus où vous avez mis vos clés, ni où se trouve ce dossier que vous réclame votre patron. Pourtant, vous n'avez pas soudainement effacé cette information de votre mémoire, mais le stress perturbe la récupération des souvenirs. Le stress est une réaction naturelle et indispensable à notre survie. Depuis la nuit des temps, il nous permet de fuir un danger imminent. Seul au milieu de la savane, face à un prédateur affamé, le stress déclenche trois types de réactions. Vous figez, fuir ou attaquer. Un chat, un oiseau ou n'importe quel vertébré réagira de la même façon. Certes, être en retard à un rendez-vous, même important, ou ne pas répondre dans la seconde aux ordres de votre patron, même tyrannique, ne constitue pas objectivement une menace de mort immédiate. Mais le stress est un réflexe archaïque, ancré au plus profond de nous. Il se déclenche face à toute situation stressante. Plusieurs types de stimuli, réels ou imaginaires, peuvent le déclencher. Physique, son perçant, odeur de brûlé, sensation forte, douleur. Émotionnel, peur, choc. Psychique, anxiété, dépression. Et même immunitaire, en réaction à une bactérie ou un virus.
Ces stimuli convergent vers l'amygdale, siège de nos émotions, mais aussi tour de contrôle du système limbique, la zone la plus archaïque de notre cerveau. Confère chapitre sur les émotions. Elle prend alors les commandes au détriment du cortex préfrontal qui nous aurait permis d'analyser calmement la situation. Dans un premier temps, c'est le choc. L'esprit s'embrouille, on bredouille, le taux de sucre dans le sang chute, on devient pâle, la gorge est serrée, l'estomac noué. Puis, l'amygdale sonne l'état d'alerte générale. L'axe du stress s'enclenche, un tsunami de neurotransmetteurs, ces molécules libérées dans les synapses qui permettent d'activer ou d'inhiber le neurone suivant, et d'hormones, des molécules libérées dans le sang qui modifient le fonctionnement d'un organe, provoquent une cascade de réactions de la tête aux pieds et des pieds à la tête. L'amygdale active l'hypothalamus, centre de contrôle des grandes fonctions du corps comme la faim, la soif, le sommeil, l'éveil, qui active l'hypophyse. Glande maîtresse, elle chapeaute toute la production hormonale dans le corps, qui active les glandes surrénales au-dessus des reins, qui libère les hormones du stress, cortisol et adrénaline.
Celles-ci se répandent dans tout le corps avec un seul but, allouer toutes les ressources disponibles à la fuite ou au combat au détriment des autres fonctions. Le cœur et les poumons s'accélèrent, le foie produit du sucre, le sang délaisse les organes digestifs pour se concentrer dans les muscles des jambes et des bras. Dans le cerveau, certains sens sont délaissés, on n'entend plus rien, et d'autres accrus, comme la vision. Les pupilles se dilatent pour focaliser toute notre attention sur la menace. Le cortisol perturbe aussi, entre autres, l'activité de l'hippocampe. La récupération des souvenirs est momentanément bloquée. Vous ne savez plus où sont vos clés, ni ce fichu dossier. Une fois la menace écartée, l'hippocampe freine l'activité de l'hypothalamus. Toute la chaîne du stress s'éteint. Votre corps et votre cerveau se relâchent. Après un moment de confusion et une grande fatigue, vous retrouvez la pleine possession de vos moyens. Votre mémoire revient. Un coup de stress ne l'affectera d'ailleurs pas durablement. Le véritable problème, c'est quand le stress devient chronique. Surmenage professionnel, charge mentale, pression sociale, relations conflictuelles, problèmes familiaux ou financiers.
L'hippocampe n'arrive plus à réguler l'hypothalamus. L'état d'alerte n'en finit plus, les hormones du stress déréglant le fonctionnement du corps. Il s'épuise, la porte s'ouvre à un nombre incalculable de pathologies. Problèmes cardiovasculaires, hypertension, diabète, obésité abdominale, baisse des défenses immunitaires, anxiété, burn-out, dépression, etc. Chacune devenant un facteur de risque supplémentaire pour des maladies encore plus graves, voire mortelles. Crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, maladies neurodégénératives comme Alzheimer, etc. Dans le cerveau, l'amygdale s'hypertrophie, et on connaît maintenant son effet délétère sur l'hippocampe quand elle s'emballe. Tandis que le cortisol altère la plasticité cérébrale. Synapses et neurones meurent, la neurogénèse et la vascularisation cérébrale se réduisent. L'hippocampe se rabougrit et le cortex, notre matière grise, s'amincit. Ces deux zones clés de la mémoire sont donc gravement affectées par un stress chronique.
Si le stress est depuis longtemps un problème de santé publique majeur, 9 Français sur 10 se déclarent stressés, la crise sanitaire l'a aggravé. Stress chronique, anxiété et dépression augmentent en flèche, particulièrement chez les jeunes, les femmes et les plus précaires. Isolement social, cours perturbés, problèmes financiers, un tiers des étudiants déclarent des problèmes d'anxiété ou de dépression. Pour les femmes, la charge mentale est en cause. Les études montrent que l'organisation des tâches domestiques ainsi que l'éducation des enfants repose encore majoritairement sur les femmes, leur faisant porter un poids psychique supplémentaire. Les confinements, avec une gestion accrue des enfants et de leur scolarité en plus des tâches professionnelles, n'ont fait qu'accroître cette charge mentale. Elle touche aussi les hommes les plus investis dans leur vie de famille. La bonne nouvelle se situe encore une fois dans notre plasticité cérébrale. Elle nous permet à tout âge d'agir contre le stress et de contrecarrer ses effets. La première solution au stress est l'activité physique. Comme nous l'avons vu, elle permet de stimuler la vascularisation cérébrale et la neurogénèse. L'hippocampe et le cortex s'épaississent, palliant les effets du stress. Même les dépressifs et les personnes âgées voient leurs troubles de la mémoire s'amenuiser avec une pratique physique régulière. L'autre solution est la méditation. S'il y a bien une mode à laquelle céder les yeux fermés, c'est celle-ci. Gratuite et accessible à tous, la méditation a été largement étudiée par les scientifiques. Loin des clichés qui lui collent à la peau, ses bienfaits sur la santé sont stupéfiants. Commençons par une idée reçue. Méditer, ce n'est pas ne rien faire. Au contraire, c'est une gymnastique cérébrale assez intense puisqu'elle consiste à maintenir son attention de plus en plus longtemps, sur ses sensations par exemple, sans se laisser perturber par les bruits extérieurs ou intérieurs, le flot incessant de nos pensées. La méditation permet de vivre mieux malgré son stress. Les facteurs stressants sont toujours là, mais on apprend à ne plus y réagir émotionnellement. La cascade des réactions hormonales se tarit, cortisol et adrénaline reviennent à des taux normaux, corps et cerveau se calment et retrouvent leur fonctionnement normal.
Pendant la méditation, on mobilise de nombreux neurones du cerveau et du corps. Non seulement on crée de nouvelles connexions entre neurones, donc on renforce la plasticité synaptique, mais on renforce également notre matière grise, notre cortex, où se logent les noyaux des neurones, et la matière blanche, les axones des neurones, ces câbles qui relient les différentes zones du cerveau. Le cerveau est de mieux en mieux câblé. Les informations circulent mieux, plus vite, et dans toutes les zones, signe d'un fonctionnement cérébral optimal. Dans l'hippocampe, la neurogénèse bat son plein, avec son lot de nouveaux vaisseaux sanguins. Il s'épaissit. Les effets du stress et de l'âge diminuent. L'attention, la concentration et la mémorisation sont reboostés. La méditation a aussi d'autres effets. En augmentant de 30% la télomérase, une substance chargée de réparer l'extrémité de nos chromosomes, elle allonge la durée de vie de nos cellules et avec notre espérance de vie. La méditation améliore donc notre santé comme notre qualité de vie.
Il existe de nombreuses applications, méthodes en ligne ou associations initiant à la méditation, dont beaucoup sont gratuites. L'avantage de la méditation est qu'elle s'adapte à tous les âges. Il existe des exercices simples pour les enfants. On leur répète de rester concentrés pour apprendre, ce qui est tout sauf naturel pour leur cerveau. La méditation leur apprend comment faire. Plus attentifs, plus concentrés, ils mémorisent et apprennent mieux lorsque c'est nécessaire pour eux. Pour les adultes, Cela vous aidera au quotidien à diminuer vos réactions face aux situations stressantes. Pour les plus âgés, cela retarde les effets du vieillissement et des maladies neurodégénératives et préserve la mémoire plus longtemps. Pour en ressentir les bienfaits, 20 minutes par jour suffisent. Comme pour le sport, la régularité l'emporte sur l'intensité. Choisissez le moment le plus opportun pour vous. Le matin, lors de votre pause déjeuner, le soir en rentrant ou avant de vous coucher. Avec un peu d'expérience, on peut même méditer dans les transports en commun. Mais il vaut mieux éviter au volant. J'espère que nous avons réussi à vous convaincre qu'une bonne hygiène de vie est la clé d'une bonne mémoire. Plus on commence tôt dans sa vie, mieux on vieillira et mieux on préservera sa mémoire. Mais gardez en tête qu'on peut agir à tout âge. Le bon moment pour commencer, c'est maintenant. Une dernière étude pour vous le prouver. L'Institut de médecine fonctionnelle, à Washington, a publié une étude dans la revue Aging. Après 8 semaines d'un programme incluant 30 minutes d'exercice physique par jour, de la méditation, un minimum de 7 heures de sommeil et un régime alimentaire sain, l'âge biologique, âge auquel correspond l'état de votre corps, des participants a baissé de 3 ans. Il n'est pas ici question de vous culpabiliser, juste de vous faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard et que chaque pas dans la bonne direction compte. Concernant la mémoire, il nous reste une dernière question à aborder, celle des nouvelles technologies. En externalisant de plus en plus notre mémoire, ne risquons-nous pas de la perdre